Voilà, nous avons besoin de la parole de Dieu. Vous êtes comme moi, est-ce que vous dites, j'ai besoin d'une parole? Quand vous avez chanté tout à l'heure ce cantique, où Jansson nous a arrêté un petit peu, je veux entendre ta voix, est-ce que c'est vraiment votre désir? Seigneur, je veux entendre ta voix, je veux une parole de toi. C'est votre désir? Eh bien, vous êtes heureux si vous pouvez dire, oui, je veux une parole du Seigneur. Nous allons faire trois lectures, s'il vous plaît. La première dans Romains au chapitre 14, au verset 9. Romains chapitre 14, verset 9e. Je rappelle également que toutes les réunions sont maintenues le mardi soir, le jeudi après-midi, le jeudi soir, le jeûne et prière le jeudi, la jeunesse le samedi à 18h, ainsi que donc les cultes et l'évangélisation. Romains chapitre 14, verset 9. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous le croyez, ce verset 11, que tout genou fléchira et que toute langue donnera gloire à Dieu. Vous gardez Romains et vous venez avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 17. Vous connaissez cette fameuse histoire des 10 lépreux. Luc, chapitre 17, verset 11. Luc, chapitre 17, verset 11e. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Et l'autre lecture dans Romains, au chapitre 4, nous allons voir le témoignage d'Abraham. Romains chapitre 4, verset 18, et nous lirons jusqu'au verset 25. Romains chapitre 4, verset 18. « Espérant contre toute espérance, il crut. » Et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela le sera imputé. Nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Amen. Et je voudrais relire avec vous le verset 20. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Il veut que nous soyons fortifiés. Dans un monde où les chrétiens sont de plus en plus fatigués, où les chrétiens abandonnent la foi, Dieu veut exactement, vous le comprendrez, le contraire, que nous soyons fortifiés par la foi. Nous avons lu cette histoire des 10 lépreux qui nous a tous interpellés, plus ou moins, quand on l'a lu pour la première fois, quand on la réentend, on se dit, mais quand même, cette affaire, quelle affaire? Ces 10 hommes qui ont la lèpre et qui apprennent que Jésus peut les guérir, ils font une démarche, combien de kilomètres ont-ils fait, on n'en sait rien. En tous les cas, ils ont fait la démarche et ils ont obéi. Ils ont obéi parce qu'il nous a dit que pendant qu'ils y allaient, ils ont vraiment eu la foi, parce qu'ils n'étaient pas guéris. Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils obéissaient, le Seigneur les a guéris. Donc, il y a eu dans le cœur de ces hommes, vraiment, le souci d'obéir à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont obéi. Et pourtant, combien sont revenus donner gloire à Dieu? Un seul. C'est une affaire qui nous préoccupe énormément, d'autant plus que cette proportion doit être au siècle des siècles proportionnelle, et elle doit être là, dans nos églises, combien de gens ont obéi jusqu'à la bénédiction. Est-ce que c'est bien d'être béni? Ah oui, il y a des gens qui obéissent, qui font ce que Dieu leur demande, jusqu'à ce qu'ils soient bénis. Et dès qu'ils sont bénis, eh bien, ils oublient Dieu. Est-ce que d'après vous, ils ont dû le remercier quand même, les neuf, quand ils se sont vus guéris? Est-ce que d'après vous, ils ont dû se dire, quand même, c'est extraordinaire, ils devaient être bouleversés? Est-ce qu'ils ont été bouleversés? Même s'ils ne sont pas revenus vers Jésus-Christ, est-ce que d'après vous, ils ont quand même dit, oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci? Oui, moi je crois. Mais vous savez, c'est une chose d'obéir jusqu'à la bénédiction, c'est une chose de remercier Dieu, parce qu'on ne peut pas faire autrement de le remercier, parce qu'on le fait dans la vie de tous les jours, parce que nous avons été l'objet de la grâce de Dieu, mais ça n'est une autre de revenir s'occuper de son âme. D'ailleurs, je pense que si nous sommes ici ce matin, c'est que nous voulons sérieusement nous occuper de notre âme. Et bien sûr, glorifier Dieu. Oui, supplier Dieu pour obtenir une grâce, c'est une chose. Revenir, lui rendre gloire et lui rester fidèle, croyez-moi, c'est autre chose. La prière. La prière, j'ai cité dans les annonces ce verset, « Ma maison sera une maison de prière ». C'est le seul nom que Dieu donne à l'Église, parce que Dieu veut que les chrétiens prient. Mais la prière, c'est toutes les façons que nous avons de nous approcher de Dieu. Lorsqu'on fait silence devant Dieu, est-ce que c'est une prière? Lorsqu'on contemple Dieu dans un moment d'adoration, peut-être que pendant la Sainte-Cène, vous avez voulu ce moment de silence. Vous étiez dans cette adoration, je le suppose, oui. Est-ce que c'est de la prière? Bien sûr. Lorsqu'on supplie Dieu de sauver des âmes, est-ce que c'est de la prière? Oui. Peut-être que cet après-midi, vous allez revenir, et pendant le moment d'appel, vous allez prier, Seigneur, sauve l'âme qui s'approche, sauve des âmes. Peut-être que vous serez, je ne sais pas ailleurs, vous dites, Seigneur, sauve des âmes. C'est une façon de prier quand on lui demande pardon. Parce qu'on a commis un péché, est-ce que ça fait partie de la prière? Oui, etc. Quand on lui adresse des requêtes, qu'on répète, qu'on pourrait dire sans cesse, des prières pour les persécutés, est-ce que Dieu veut qu'on fasse des requêtes? Oui, c'est écrit. Donc ça, c'est la prière, quand on le loue pour le salut, etc. La prière englobe toutes les façons que nous avons de nous approcher de Dieu. Mais beaucoup ne connaissent que de la prière le fait que de demander. Ils demandent à Dieu, donne, vous connaissez ce verset des Proverbes, la sangsue à deux filles, donne et donne. Voilà, ça représente les chrétiens qui n'ont pas tout compris et qui sont certainement handicapés dans cette vie spirituelle. Ils ne font que demander à Dieu. Seigneur, voilà, ils sont au chômage, Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Est-ce que c'est normal que quelqu'un est au chômage? Demande du travail. Oui, c'est bien même. Parce qu'il y a des gens qui, au chômage, ne pensent pas trop au travail. Ils pensent aux aides, à droite, à gauche. Quand c'est les pécheurs, ça se comprend. Mais quand c'est des chrétiens, je vous assure que ça fait quand même mal au cœur. Quelqu'un qui est malade, Seigneur, guéris-moi. Est-ce que c'est normal? Oui, mais il y a des chrétiens pour qui la vie spirituelle s'arrête à cela. Guéris-moi, aide-moi, fais-moi du bien, console-moi, fais ceci, fais cela. Et c'est dommage. Comme je viens de le dire, je pense que les neuf autres ont dû remercier le Seigneur. Ils ont dû le faire. Ce n'est pas possible qu'ils ne l'aient pas fait. Mais entre lui dire merci de temps en temps, parce que Dieu a fait ceci, c'est sûr que c'est bien, mais revenir comme nous avons voulu le faire ce matin, parce qu'on n'était pas obligé de venir ce matin. Personne ne vous a obligé à venir. Depuis des années que vous êtes chrétien, personne ne vous oblige. Vous êtes revenu dans la maison du Seigneur, parce que vous voulez le glorifier. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pendant le moment du culte. Ça a vraiment été un culte d'adoration. Moi, j'ai écouté chaque louange, je les ai écoutées minutieusement, et je n'ai pas entendu une seule prière. Si vous faites le rappel, vous verrez, tout le monde a adoré Dieu. Vous avez tous ceux qui ont élevé la voix, vous l'avez fait. Et même un frère qui parmi nous est malade, il n'a pas prié pour lui, il a adoré le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît lorsque l'on s'approche de Dieu, non pas pour demander, parce qu'on a toute la semaine pour demander. Et je crois que le culte que nous appelons le culte d'adoration devrait être des moments privilégiés où on ne cesse de le remercier pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est un commandement. de l'adorer. C'est le premier commandement par son antiquité, mais aussi par son importance. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être rappelé de temps en temps, hein? D'ailleurs, mardi soir, nous verrons ce verset. Nous le verrons, nous l'expliquerons, afin que nous sachions exactement où nous en sommes dans notre communion avec Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Parce que vous savez, si on n'honore pas ce premier commandement, tous les autres vont être difficiles. Par contre, je suis persuadé que si on adore Dieu de tout notre cœur, ça va être beaucoup plus facile de respecter tous les autres commandements. Lorsque les commandements sont donnés, le Seigneur dit ceci, dans Deutéronome 5, ne le cherchez pas. Écoute, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Voilà ce que Dieu veut, que nous soyons soignés par rapport aux commandements du Seigneur. Et c'est une question que nous pouvons poser ce matin. Nous poser notre foi. Que fait-elle? Grandit-elle? Diminue-t-elle? Qu'est-ce que vous pourriez dire de votre foi aujourd'hui? 11 août, c'est ça? 11 août 2013. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ma foi, depuis que je suis converti, depuis le 1er janvier, ai-je fait des progrès ou est-ce que je me suis attiédi? Parce que quand même, c'est écrit. Habacuc dit, le juste vivra par sa foi. Et un des signes de la fin des temps, vous le savez, c'est que plusieurs abandonneront la foi. Quand on abandonne quelque chose, c'est que ça ne vaut pas grand-chose. Ça vous arrive d'aller à la déchetterie, jeter quelque chose? Est-ce que ça vous arrive? Ça vous arrive de jeter? Pourquoi vous le jetez? Franchement. Alors quand on abandonne la foi, j'en déduis qu'elle n'a plus beaucoup de valeur, ça vous montre l'aveuglement dans lequel certains chrétiens peuvent tomber lorsqu'ils en arrivent là, abandonner la foi, alors qu'il n'y a rien de plus précieux que d'avoir cette foi que Dieu nous a donnée et de la faire valoir. Édifiez-vous, dit l'apôtre, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Dieu nous a donné la foi et je crois qu'on doit l'utiliser comme une grande bénédiction. Alors j'ai pris le témoignage d'Abraham. Abraham, vous avez votre Bible ouverte? Je ne sais pas si vous avez votre Bible ouverte, mais au verset 19, c'est un verset moi qui m'a profondément interpellé. C'est un verset qui m'a profondément touché parce qu'il commence avec cette parole qu'il n'a pas faibli dans la foi. C'est bien ce qui vous intéresse, oui ou non? Est-ce que c'est ça qui vous intéresse? Est-ce que vous dites, voilà, moi ma foi, je veux qu'elle soit vivante. Moi je veux que ma foi soit utile. Vous savez que la foi, par exemple, sans les œuvres, elle est comment? Elle est morte ou elle est inutile, c'est l'apôtre Jacques qui le dit. Et il y a des chrétiens à qui Dieu devra dire, voilà, mais tu as eu une foi morte, tu as eu une foi inutile, parce que tu l'as laissé faiblir. Et nous voyons le comportement d'Abraham, il n'a pas voulu que sa foi s'affaiblisse, et sans faiblir dans la foi. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Alors, il a fait trois choses que vous pourrez partager, qu'on va partager. Il a fait trois choses. La première, c'est qu'il n'a pas regardé les circonstances. Je vous ferai remarquer qu'il nous ait dit que sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas ni son corps, ni celui de sa femme. Après, il n'a pas douté. Et troisièmement, c'est le sujet de notre prédication, il a donné gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, vous le savez, l'Église ira de plus en plus dans l'apostasie, je parle de manière générale, les chrétiens iront de plus en plus dans la tiédeur. Vous le savez, tout ça, ce sont des prophéties du Seigneur Jésus. Ce sont des choses qui, hélas, arriveront, qui sont arrivées. Mais il y aura ceux qui garderont la parole, que Dieu gardera de la colère qui va venir sur la terre. Car, vous le voyez comme moi, les prémices de la colère s'abattent sur la terre. Qu'en sera-t-il après l'enlèvement de l'Église? Si vous avez lu le livre de l'Apocalypse, vous avez une petite idée de ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Mais Dieu veut, lui, que nous soyons prêts pour l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous êtes prêts pour l'enlèvement? Est-ce que vous êtes sûr que si le Seigneur Jésus revenait, eh bien vous partiriez avec lui dans la gloire? Ou est-ce que vous resteriez sur la terre? Vous avez vu qu'après l'enlèvement, bien sûr qu'il y a la possibilité d'être sauvé, mais c'est au détriment de sa vie, au prix de sa vie. Vous l'avez vu qu'après l'enlèvement, le dictateur mondial imposera cette puce électronique sur la main droite ou sur le front et que tous ceux qui refuseront de la porter, parce qu'ils sauront très bien à quoi ça correspond, car il est dit que tous ceux qui accepteront cette puce seront perdus. C'est écrit ou c'est pas écrit? Je veux dire, ça peut pas être plus clair. Et donc les rétrogrades, tous les chrétiens
tièdes qui seront restées sur la terre, s'ils veulent aller au paradis, s'ils veulent aller au ciel, ils devront refuser. Donc c'est quelque chose de terrible, il n'y aura plus la grâce. La dispensation de la grâce sera terminée le jour où l'Église sera enlevée. Et c'est pour ça qu'il faut que nous, les chrétiens, nous ayons une véritable foi, une foi vivante, une foi, la foi que Dieu demande, cette foi qui est agréable à Dieu. Et nous avons des exemples extraordinaire. D'ailleurs, on l'a lu, c'est pas à cause de lui que c'est écrit, c'est pour que nous le comprenions. Nous devons pas faiblir dans la foi. Pour ne pas faiblir dans la foi, la première chose qu'il faut faire, c'est ne pas regarder les circonstances. Je sais pas les circonstances dans votre foyer. Est-ce que ça peut être difficile dans un foyer? Nos sœurs qui ont conjoint un converti, ou vice versa, est-ce que c'est pas facile? C'est difficile? Il y a des églises. Est-ce qu'il n'y a pas des églises où c'est vraiment difficile? Il y a des endroits assez difficiles par rapport à ceci, par rapport à cela, par rapport à des épreuves qui peuvent se présenter. Et ce témoignage d'Abraham nous prouve qu'un homme de foi, une femme de foi, une église de foi ne regarde pas aux circonstances. C'est comme ça. On ne regarde pas aux circonstances. Jacques dit, mais celui qui doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Et beaucoup de croyants, qui avaient peut-être comme les 9 lépreux qui ont été bénis, qui ne sont pas revenus avoir cette intimité avec le Maître, eh bien, ont peut-être sur le moment été très enthousiastes, mais je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Une chose est certaine, si nous n'avons pas de communion réelle avec le Seigneur, eh bien, notre foi va s'affaiblir. Parce que la parole de Dieu nous maintiendra, je crois, dans la fidélité. Puisque tu as gardé ma parole, je te garderai. C'est pas plus compliqué que ça. Souvent, les gens me disent, mais ce goût, est-ce que je serai prête lorsque le Seigneur Jésus va revenir? Mais la Bible dit que si on veille et que si on prie tous les jours, nous aurons la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la surface de toute la terre. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Donc si vous veillez et si vous priez et si vous restez là, attaché à Dieu, Seigneur, donne-moi ta parole. Oh, ce matin, je sens que tu veux me parler. Oui, tu veux pas que je faiblisse dans la foi. Et oui, il y a des circonstances, mon mari, mon épouse, ma maison, mes enfants qui sont tous dans la perdition. Est-ce que ça peut arriver que vos enfants sont dans la perdition? Ben, c'est pas parce qu'ils sont perdus qu'ils vont rester perdus. Est-ce que Dieu peut les sauver? C'est Dieu qui va les convaincre de péché. N'essayez pas, vous, de les convertir. C'est Dieu qui les convaincra de péché. Et la présence de Dieu dans nos réunions est importante, dans nos réunions d'évangélisation est importante, parce que vous le savez, Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et que l'action du Saint-Esprit commence lorsqu'il y a des convictions de péché. Et si on ne voit pas de convictions de péché, c'est qu'il y a quand même un vrai problème dans les églises. C'est pour ça qu'il faut que nous retrouvions une foi vivante. Il ne faiblit pas dans la foi. Pourtant, il a attendu un moment. Il a attendu 25 ans que la promesse se réalise. Il n'avait que 75 ans lorsque Dieu lui a fait la promesse. Qu'il tuera un fils. Vous rappelez cette fameuse histoire où Dieu dit à Abraham, écoute, sors de ta tente, regarde les étoiles du ciel, et regarde, voilà, ta postérité sera aussi grande. Et voilà, il a dû se dire, bon, d'accord. Mais Dieu lui avait fait une promesse. Il l'a serrée dans son cœur pendant 25 ans. Et ce texte est très sérieux. S'il est dans la Bible, c'est que nous en avons besoin. S'il est dans la parole, c'est pour nous. Donc, il n'a pas faibli dans la foi, il n'a pas regardé son corps qui vieillissait, le corps de sa femme qui était ménopausée, il ne l'a pas regardé, il a regardé à la promesse que Dieu lui avait faite. Et mes frères et sœurs, un chrétien, un véritable chrétien, vous le savez, Jésus l'a dit, il se fait violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Il se fait violence par rapport à ce que Dieu dit. Déjà, ce qu'il dit, écoutons-le. Ce matin, moi je crois que Dieu peut nous parler au travers d'un chant, au travers de la Sainte-Seine. Moi, Dieu m'a parlé au travers d'Ésaïe 53. Je connais ce texte par cœur. Mais je vous assure, ça m'a fait du bien de le réentendre pendant la Sainte-Seine. Que son œuvre prospérera entre ses mains. Ça ne vous a pas fait du bien? Moi, ça m'a fait du bien. Ce que Dieu dit, écoutez-le, ce qu'il promet. Est-ce qu'il y en a des promesses pour ces chrétiens, pour ces enfants? Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de promesses que Dieu nous a faites? Est-ce que vous les croyez toujours, ces promesses? Mais croyez-les. S'il les a faites, c'est pas pour nous faire rêver. S'il nous a fait des promesses, c'est pour que nous les croyons. Quand Dieu fait une promesse, laissez-moi vous dire qu'elle s'accomplira. Quand Dieu dit ne vous inquiétez de rien, le lendemain aura soin de lui-même, il y a un commandement, il y a une promesse, laissez-moi vous dire que si on le vit, eh bien on le vérifiera. Ce que Dieu promet, croyons-le, ce qu'il demande, faisons-le. Quand Dieu nous demande d'écouter, il faut écouter. et ne pas être comme ça, léger, dans cette façon de nous approcher du Seigneur. Vous savez, sinon on garde une mentalité d'esclave. Vous rappelez les Hébreux, quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient fait des expériences, les unes plus grandes que les autres. Vous connaissez les disciples d'Égypte, la façon dont Dieu a ouvert la mer. Non mais ce sont des expériences, c'est des prodiges, c'est même pas des miracles, c'est des prodiges. Il y a une grande différence entre les deux. Et pourtant, ils sont morts dans le désert, après avoir fait des expériences les unes plus grandes que les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont gardé cette mentalité d'esclave. Ils étaient sauvés, ça c'est aucun doute, mis à part ceux qui volontairement ont abandonné les voies de Dieu, ça c'est clair qu'il n'y en a pas eu, il y en a eu pas mal. Mais les frères et sœurs, malgré le fait qu'ils aient été délivrés, malgré le fait qu'ils soient sortis de l'Égypte qui représente le monde, ils sont morts dans le désert avec cette mentalité d'esclave. Pourquoi ? Parce qu'ils ont regardé les circonstances et ceci et cela, et il y a ceci et il y a cela, et on n'y arrivera pas, et ils ont tourné en rond pendant 40 ans. C'est ce qui arrive dans beaucoup d'églises, c'est ce qui arrive dans beaucoup de cœurs, c'est que nous regardons les circonstances parce qu'elles y sont. On ne peut pas non plus être idiot et irresponsable, les circonstances existent. Quelqu'un qui vous dit non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Moi, je vous avoue que je m'interroge un peu, parce qu'il y a quand même de gros problèmes et de grosses difficultés. Donc, d'un côté, par exemple, on voit les Hébreux qui ont gardé cette mentalité d'esclave. De l'autre, on peut penser à David. David, vous rappelez David quand il s'est trouvé devant le géant ? Vous rappelez cette histoire ? Je prêche jamais sur cette histoire, mais c'est quand même une drôle d'histoire. Vous connaissez cette histoire ? Comment ce jeune homme, qui n'était pas un guerrier, qui n'était qu'un jeune homme, s'est retrouvé par hasard, parce que justement il avait obéi à son père qui lui avait demandé d'amener des fromages et du pain à ses frères et au chef de l'armée. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il faisait qu'obéir à son père. Mais vous savez, en obéissant aux gens que Dieu met autour de nous, on peut être dans la volonté de Dieu. Il y a des gens, ah non, moi j'obéis à personne, j'obéis qu'à Dieu. Alors ça fait très spirituel, mais moi je peux vous dire que ça fait très rebelle surtout. Parce que je crois que Dieu nous a placés les uns à côté des autres et que nous devons nous soumettre les uns aux autres, que nous devons obéir. Et les enfants, obéissez à vos parents. Parce que c'est ridicule de dire « Seigneur, utilise-moi » si vous n'obéissez pas à vos parents. Parce que la Bible dit d'honorer ses parents. Oui ou non ? Et moi, quand j'entends des fois certaines prières, mais j'ai envie, bon, j'ai pas le droit, mais j'ai presque envie d'intervenir, de dire à la personne « Mais arrête. Quand je sais comment tu te comportes chez toi, arrête de prier ainsi. » David était dans la volonté de Dieu parce qu'il obéissait. Et il a obéi à son père. Pourtant, son père l'avait oublié, vous rappelez, quelque temps avant. Quand le prophète Samuel, il aurait pu dire, « Attends, mais t'as failli me faire passer à côté. Et tu te rends compte, franchement, t'as appelé tous les frangins. Et moi, tu m'as laissé garder les brebis. Et tu veux que j'amène des fromages aux frères. Eh bien, t'as qu'à y aller. » C'est comme ça. Mais je peux vous dire que c'est comme ça aujourd'hui que les jeunes feraient. C'est vrai ou c'est pas vrai ? T'as qu'à envoyer quelqu'un d'autre. Moi, j'ai fait mon boulot et ça suffit. Mais il est entré dans la bénédiction de Dieu parce qu'il a commencé à obéir. Mes frères et sœurs, si nous voulons voir la bénédiction de Dieu, il faut faire ce que Dieu nous demande. Et chacun, et ce n'est pas moi de vous dire, faites ceci, venez à la réunion cet après-midi. Bien sûr que moi je voudrais que cet après-midi, il y ait du monde pour accueillir les âmes nouvelles qui viendront. Mais c'est à vous de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Où est ma place ? Qu'est-ce que je dois faire ? Vous ne devez pas faire ce qu'un homme vous demande parce qu'il a envie que ça, parce que ça lui plairait. Vous devez savoir ce que Dieu vous demande. Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Comme on l'a chanté, je veux entendre ta voix. Les congés se finissent, ou pour certains commencent, mais qu'importe, je veux faire ce que tu me demandes. Qu'est-ce que tu me demandes ? Voilà comment un homme peut commencer à ne pas faiblir dans la foi, mais qu'est-ce que tu veux ? Abraham avait une promesse, il savait ce qu'il devait faire, et il s'est soumis. Sinon, on va tourner en rond. Bien sûr qu'on sera toujours les enfants du Seigneur, ça ne change rien. Mais on va passer à côté de la bénédiction. Hier, je relisais l'histoire de Goliath. Vous savez, de David et Goliath. Vous savez, Goliath se présentait matin et soir pendant 40 jours, qui est le chiffre de l'épreuve. 40 jours avec le même message en boucle, et vous êtes nul, enfin je le fais en français courant, mais vous êtes nul, vous êtes des incapables, vous êtes des esclaves, c'est ça qu'il disait, et vous n'y arriverez jamais, vous n'êtes pas chez vous, lisez bien, et vous verrez que Goliath ne fait que dire des paroles, que des mensonges, Et c'est exactement ce que le diable veut faire, parce que nous, si on n'a pas Goliath, parce que celui-là, il a été tué, il y en a quand même un autre qui fait bien son travail, et qui essaie pareillement, en boucle, de nous décourager matin et soir, et des fois plus, pour nous faire croire que nous sommes des incapables, que nous ne valons rien, que l'Église n'a plus sa place, parce que c'est vrai quand même qu'on peut se poser la question, avec des paroles de Jésus, qui nous dit par exemple que vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Est-ce que vous le croyez qu'on est des étrangers sur la terre? Est-ce que notre pays c'est le monde, la France, la Haute-Garonne? Ou est-ce que notre pays c'est le ciel? C'est quoi votre pays, la Haute-Garonne ou le ciel? On est étrangers sur la terre. On est étranger. On le ressent de plus en plus. D'ailleurs, l'enlèvement de l'Église ne fait que confirmer cette pensée. C'est que nous sommes étrangers sur la terre. Et le monde, le diable, peut nous dire, mais vous n'en avez plus rien à faire, vous n'avez rien à faire sur la terre. Est-ce que le diable ne peut pas nous le dire, ça? C'est quoi, à quoi ça sert de faire de l'évangélisation? À quoi ça sert d'avoir des réunions de prière? L'Église, elle n'a plus sa place. Est-ce que le diable peut nous parler de cette façon? Mais bien sûr, d'ailleurs, si beaucoup de chrétiens négligent la prière, l'évangélisation, ou ne prient plus, ou n'évangélisent plus, c'est qu'ils ont cédé à ces sirènes de l'ennemi qui, matin et soir, nous fait ce qu'on appelle un lavage de cerveau, il essaie de nous décourager. Moi, je crois que tant que l'Église est sur terre, elle a sa place. Il y en a qui le pensent comme moi, qu'elle a sa place. C'est pour ça que chacun, et ça c'est pas un pasteur, de vous dire, voilà madame un tel, faites ceci, monsieur de Dieu, venez cet après-midi. Non, je crois que nous devons savoir chacun exactement ce que Dieu nous demande. C'est la meilleure façon d'arriver à cette vie de l'esprit. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon père. Voilà, ce que je vous demande. Vous devez, mes frères et sœurs, c'est votre pasteur qui vous parle, mais je crois que c'est le Seigneur au travers de sa parole, chacun d'entre nous, nous devons savoir ce que le Seigneur nous demande. Ou alors, nous écouterons les Goliaths modernes nous dire, mais voilà, vous êtes nuls, vous n'y arriverez pas, et c'est ce qui se passait, jusqu'à ce que David arrive sur le champ de bataille, parce qu'il était en train d'obéir à son père, donc il obéissait en même temps à Dieu, et il arrive là avec ses fromages et son pain, et il prend conscience de ce qui se passe. Nous aussi, mes frères et sœurs, nous devrions prendre conscience de ce qui se passe. Parce que si vous écoutez Goliath sur TF1 ou sur BFM TV, croyez-moi qu'il parle, Goliath. Croyez-moi qu'il parle. Et j'espère que vous écoutez plus les promesses que les Goliaths modernes. Croyez-moi qu'il parle pour essayer de vous décourager. David connaissait Dieu. Il connaissait la volonté de Dieu. Même s'il y a l'ennemi qui veut faire interférence, il y a un Dieu tout-puissant. Parce qu'il y a quand même plus grand que Goliath. Parce que qu'on le veuille ou non, de toute façon, qui c'est qu'il avait créé Goliath? Qui c'est qui avait donné la vie à Goliath, même s'il faisait 3 mètres de haut? Qui c'est qui lui avait donné la vie? Dieu. Donc, vous ne croyez pas qu'à 3 mois, Goliath, il aurait pu avoir le paludisme, tiens, et il n'aurait pas pu l'avoir? Est-ce que Dieu aurait pu le détruire avant qu'il ne soit grand? Dieu permet certaines choses. Nous, on est là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mes frères et sœurs, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu contrôle tout dans les cieux et sur la terre. C'est pour ça que le comportement d'Abraham est le comportement que Dieu nous enseigne d'avoir pour ne pas nous laisser piéger par tout ce qui se passe. Quand je vois combien certains chrétiens ont peur de l'islamisation dans notre pays, vous croyez que Dieu aurait pu l'empêcher? Est-ce que vous croyez que Dieu aurait pu empêcher? Mais bien sûr, Dieu contrôle tout. Nous, nous ne devons pas nous affoler des choses, nous devons voir celui qui est au-dessus des choses, celui qui règne sur toutes choses. David, lui, il voyait bien que le géant, il faisait 3 mètres, il avait eu autant que les autres, mais il voyait pas les choses de la même manière. Il savait très bien que cette situation n'était pas juste. Même si David, Goliath disait, voilà, vous êtes des esclaves. C'était pas des esclaves, je suis désolé. C'était pas des esclaves, c'était des chrétiens qui avaient leur place chez eux. Enfin, des chrétiens, des croyants qui avaient leur place dans le pays de Canaan. Oui ou non? Est-ce qu'ils étaient à leur place, les croyants? Bien sûr. Mais voyez combien le diable essaie de nous décourager déjà par des propos, et on pourrait les multiplier. Mais bien sûr, le temps nous manque. David connaissait la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons chacun nous tenir devant sa face pour savoir exactement ce qu'il nous demande. Ce qui a fragilisé les églises, ce qui a fragilisé beaucoup d'églises, c'est que nous, les pasteurs, nous avons parfois imposé notre façon de voir. Faites ceci, faites cela. Ah, Ina, vous chantez bien? Vous chantez bien? Oui. Non. Vous chantez bien, bon, mettons, Nina, vous chantez bien, voilà, vous devriez aller à la chorale. Est-ce que c'est une bonne idée quand un pasteur dit ça à une chrétienne? Bon, vous chantez pas bien, c'est pas grave. Madame Lecouni, vous chantez bien? Non plus, bien. Bon, imaginons, vous comprenez ma façon de penser? Est-ce que c'est la volonté de Dieu parce que quelqu'un chante bien qu'il soit à la chorale? Sérieux. Mais voyez, après, non, mais ce qui se passe, je prends un exemple, mais ce qui se passe, c'est qu'on demande à quelqu'un de faire quelque chose que Dieu ne lui a jamais demandé. C'est pour ça qu'il se décourage et qu'après, oui, ça ne sert à rien. Ah, puis l'autre va chanter, va aller, ah, mais Ina, vous chantez à la chorale. Ah, ben, moi, je vais chanter avec toi, mais j'aime bien Ina, j'aime bien chanter. Alors, voyez, tout ça, ça devient charnel, ça devient humain, et en vérité, on passe véritablement à côté de la volonté de Dieu. Vous devez, écoutez-moi, mes frères et sœurs, vous devez savoir ce que Dieu vous demande. Vous devez le savoir. Si vous ne savez pas quelle est votre place dans l'Église, vous êtes en danger. Vous devez, comme David, vous tenir devant Dieu et Dieu vous dirigera, peut-être en obéissant à vos parents, à votre patron. Est-ce que c'est bien d'obéir à son patron? Moi, quand je vois comment certains chrétiens parlent de leur patron, je ne suis pas du tout étonné qu'ils ne soient pas en paix. Parce que je pense que quand même, si on a du travail, on doit honorer aussi son patron. Et puis peut-être que si le patron il est acariâtre, ben c'est peut-être une épreuve que Dieu permet pour nous apprendre la patience, puisqu'on a demandé à Dieu, Seigneur, enseigne-moi la patience. On n'a pas compris que Dieu allait utiliser le patron pour nous l'enseigner. Et parce que Dieu, il utilise aussi les gens, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et voilà, et le problème après c'est qu'on devient comme ces esclaves, on est là, on se plaint de tout. Je parlais ce matin avec une sœur qui était choquée de voir qu'il y a des chrétiens qui sont tout le temps en train de se plaindre. Et c'est vrai, elle a raison. Elle a raison, c'est quand même terrible. Rechercher la volonté de Dieu et s'y conformer. Seigneur, voilà, tu permets ça dans ma vie, tu veux que je fasse ceci, eh bien je vais le faire. Voilà, demandez-lui au Seigneur. Ce n'est pas possible que si vous lui demandez du pain, il vous donne une pierre. Ce n'est pas possible que si vous lui demandez du poisson, il vous donne un scorpion. Vous connaissez l'enseignement. Ce n'est pas possible. Donc, malgré le fait que nous sommes étrangers sur la terre, nous avons notre place. Nous avons notre place jusqu'à ce que Dieu nous reprenne ou jusqu'à ce que Dieu nous enlève. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas vivre dans le fatalisme. Vous savez, c'est un danger. Ça. Comme Dieu est omniscient. Est-ce que Dieu est omnipotent? Est-ce que Dieu est tout-puissant? Oui. Donc, ça peut nous plonger dans un danger, celui de nous faire de vivre dans cette espèce de fatalisme. Ben voilà. Dieu sait tout, Dieu voit tout, voilà, gloire à Dieu, je fais rien. Non, le juste vivra par la foi. Il doit faire ce que Dieu lui demande. Pourquoi des églises n'évangélisent plus? Pourquoi, dites après vous? Parce que les gens sont blasés, parce que les gens ont perdu cette confiance que Dieu veut sauver des âmes. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois que dans presque toutes les églises du mouvement, il n'y a plus d'évangélisation. Moi, je vous assure, ça me brise le cœur, parce que moi, je crois que si Dieu veut sauver un Toulousain cet après-midi, est-ce qu'il peut l'amener? Ben oui, ce que Dieu veut, c'est un endroit où sa parole soit prêchée, où on prêche la repentance, où on prêche la croix, et Dieu est capable cet après-midi d'amener un pécheur. Vous ne croyez pas que Dieu peut permettre qu'un Toulousain se soit réveillé ce matin avec ce fardeau de faire la paix avec Dieu, parce qu'il va peut-être mourir bientôt, et il faut qu'il y ait une église, et Dieu sait qu'il y a une église ouverte, et bien Dieu va envoyer le pécheur. C'est ça la foi, parce que moi je crois que c'est Dieu qui dirige tout. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit le Seigneur. Non, ne baissons pas les bras. Interrogeons-nous chacun sur ce qu'il nous demande. Un homme de foi, une femme de foi, une église où il y a vraiment la foi, on ne regarde pas aux circonstances. On ne dit pas, oh, cette ville de Toulouse, c'est une ville corrompue, c'est une ville où il y a le plus grand taux d'homosexuels en France, je crois que c'est la première ville homosexuelle de France. Ça fait mal au cœur de voir tout ce qui se passe dans nos villes. Mais vous ne croyez pas que Dieu est au-dessus? Dieu est au-dessus. Et Dieu ne nous demande pas de regarder le péché de la ville. Dieu nous demande de regarder ce Dieu tout-puissant qui règne au siècle des siècles. Les soldats voyaient le géant. David voyait le géant. Mais David voyait plus que le géant. Il voyait le grand Dieu qui est au-dessus des géants et pour qui les géants sont certainement très petits. Comment voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui? Vous regardez les infos comme moi de temps en temps? Est-ce que ça vous arrive de regarder les infos? Ça vous arrive? Comment vous voyez les infos? Comment vous écoutez les infos? Parce que c'est une vraie question. Est-ce que vous voyez que le mal qui est véritable? Ou est-ce que, au-delà de ce mal, vous voyez le grand Dieu de l'univers qui veut bénir l'Église parce que l'Église a encore sa place? Et un chrétien, c'est quelqu'un qui fait confiance à Dieu. David, s'est abrité en Dieu. Vous savez, si la vie est juste, moi je crois que c'est un effet de la grâce de Dieu. Franchement, vous ne croyez pas que c'est un effet de la grâce de Dieu? Bien sûr qu'il avait tué un lion, qu'il avait tué un ours, bien sûr que c'était un gars qui s'entraînait. Et nous aussi, nous devons régulièrement et tous les jours combattre le bon combat. Mais mes frères et sœurs, moi je crois que tout est un effet de la grâce de Dieu. S'il a bien visé, c'est un effet de la grâce de Dieu. S'il est resté humble après cette affaire, c'est un effet de la grâce de Dieu. S'il a bien réagi après son péché avec Bathsheba, c'est un effet de la grâce de Dieu. Moi, je crois que dans nos échecs et dans nos victoires, tout est un effet de la grâce de Dieu. Et que s'il y a la grâce de Dieu, on s'en sortira. Mais quand on dit les choses, on doit les vivre. Quand David écrivait, par exemple, « Il est mon abri », vous croyez qu'il jouait le poète quand il écrivait « Il est ma forteresse », vous croyez qu'il écrivait ça pour que ça rime avec d'autres textes? Ou est-ce que vous pensez qu'il le croyait vraiment? Quand il disait « L'Éternel est mon bouclier, il est ma forteresse, mon libérateur, je me confie en lui », mais il le vivait, il croyait vraiment. Est-ce que vous croyez que Dieu vous protège? Est-ce que vous croyez que Dieu vous garde? Bien sûr que vous entendez de ces choses terribles. Tiens, comment cette personne s'est fait agresser en ville, elle a pris une balle, perdue. Mais je vais vous dire, si Dieu veut vous garder en vie, il n'y a pas une balle qui vous touchera. Vous entendez, mes frères et sœurs? Ah, vous devez. Moi, je crois qu'il faut qu'on prie quand on part. Seigneur, protège-moi. Je crois qu'il faut le faire. Quand on prend sa voiture, quand on part en vacances, quand on revient. Est-ce que c'est écrit de demander à Dieu qu'il nous protège, qu'il nous délivre du malin? Oui, c'est écrit. Mais faites-lui confiance. Il est votre forteresse, votre libérateur, que ce ne soit pas de la poésie. David honorait Dieu. Ce qu'il voulait, lui, c'était honorer le Seigneur. Donc, ne regardez pas les circonstances. Elles seront de plus en plus défavorables. Ça ira de plus en plus mal. Est-ce que c'est un scoop ou est-ce que vous le saviez déjà? Que ça ira de plus en plus mal. Vous le savez, ça va aller de plus en plus mal, de pire en pire, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et après, ce sera quelque chose de terrible. C'est pour ça, s'il y avait un pécheur parmi nous, mais repentez-vous. Je pense aux enfants de chrétiens, mais repentez-vous. N'attendez pas que la porte soit fermée pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Donc Abraham, lui, il n'a pas faibli. Il avait une promesse. Il avait une promesse, vous avez vu comme moi. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a persévéré. Est-ce que Dieu vous a fait des promesses? Est-ce que cette semaine, en lisant les psaumes, en lisant le Nouveau Testament, est-ce que vous avez lu des promesses? Comment vous les avez... Qu'est-ce que c'est qui est le plus important? Une promesse de Dieu ou c'est les paroles de David Pujadas qui sont plus importantes que... Vous savez, moi je peux vous dire que quand je parle avec certains chrétiens, ils sont plus impressionnés par les journalistes que par les prophètes. Hein. Croyez-moi, parce qu'ils ont peur. Mes frères et sœurs, ce qui est important, c'est les promesses de Dieu. Dieu lui avait fait une promesse à Abraham et il ne l'a pas oubliée. Dieu lui avait parlé que celui qui doute... ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Dieu nous a laissé sa parole. Le ciel et la terre passeront. Tout passera. Tout nous passerons. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Ce livre, ce saint livre que vous avez sur vos genoux ne passera pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Donc qu'est-ce qu'a fait Abraham? Eh bien, il glorifie Dieu. Relisons ce verset. Parce que c'est une clé. Ce n'est pas une méthode. C'est un état d'esprit. Parce que si vous en faites une méthode, alors là, ça devient dangereux. Comme le livre de comment il s'appelle, Merlin Carotter, La puissance de la louange, qui a été beaucoup, beaucoup utilisé comme une méthode. C'est vraiment lamentable. Mais regardez le comportement d'Abraham. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi. Comment il avait été fortifié? En donnant gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, voilà une clé pour ne pas voir sa foi faiblir. Donner gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ça veut dire que je reconnais que Dieu est souverain. Moi, je me suis réjoui ce matin, je le répète, pendant la louange, vous avez tous loué le Seigneur. Ceux qui ont élevé la voix, je pense que ceux qui ne l'ont pas fait à haute voix, vous l'avez fait aussi dans votre cœur, enfin, je le pense. Mais ceux qui l'ont fait à haute voix, vous avez vraiment fait ce que Abraham a fait, vous avez glorifié Dieu. Même le chant qui a précédé la prédication était un cantique qui nous incitait à glorifier Dieu ensemble. Pour glorifier Dieu, bien sûr qu'il ne faut pas le faire. Bon, je glorifie Dieu. Le pasteur a dit qu'il fallait rendre gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, rendre gloire à Dieu? Rendre gloire à Dieu, c'est reconnaître que Dieu est souverain. C'est reconnaître qu'il est tout puissant, qu'il est omniscient, ces mots, vous savez, un petit peu compliqués, mais qui représente vraiment ce que ça veut dire, que Dieu sait tout, il voit tout. Alors croyez-moi que s'il y a un danger, dans le ciel, vous allez avoir des surprises. Le nombre de fois où Dieu va vous montrer qu'il vous a épargné un danger ou un accident. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais vous allez, excusez-moi l'expression, elle est un peu triviale, vous allez tomber sur le derrière quand vous allez voir le nombre de fois où Dieu nous a épargné du mal. Mais nous allons être bouleversés quand on va voir le nombre de fois où ces anges nous ont gardés. Et croyez-moi que tant que Dieu aura besoin de vous, il vous gardera. La seule chose qu'il faut faire, c'est pas être dans un mauvais état d'esprit, comme ces Hébreux dans le désert, comme ces soldats du temps de David. Il faut dire, voilà, oui, il y a un Goliath, oui, il y a un diable qui est puissant, mais il y a un Dieu qui est plus grand, et on va pas baisser les bras. Il faut que je sache absolument ce que Dieu veut, parce qu'il y a des chrétiens qui sont malheureux. Est-ce que vous le savez qu'il y a des chrétiens malheureux? Mais Jésus l'a dit, vous êtes heureux, si vous savez ces choses, vous connaissez la suite. Pourvu que vous fassiez ce que je vous demande. Vous savez quand il a dit de laver les pieds, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que. Et si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, même si on le sait, au contraire, ça nous démolira parce qu'il y aura une frustration entre ce que l'on a entendu et ce que l'on ne fait pas. Donc, il faut vivre par la foi. Il n'y a pas que la grâce. Même si la grâce, c'est 99%, il y a la foi de l'homme. Le juste vivra par la foi. Je le répète, la foi sans les œuvres, elle est morte. Abraham, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse, Abraham? Eh bien, il a démontré sa foi en donnant gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Franchement, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse d'autre? Il a donné gloire à Dieu. Si vous prenez l'exemple de Noé, comment Noé a démontré sa foi? Il a donné gloire à Dieu? Il a dit, ah, peut-être je vais imiter Abraham. Je vais faire comme Abraham, moi ça me va bien, très bien. Voilà, je sais ce qu'il a fait, il a rendu gloire à Dieu. Est-ce que Noé devait rendre gloire à Dieu ou est-ce qu'il devait faire autre chose? Vous savez ce que Noé devait faire? Il devait construire une arche. Il a démontré sa foi en faisant ce que Dieu lui demandait. Il a fait une arche, il a construit une arche. Vous connaissez Hébreux 11. Et quand vous regardez chaque caractère de la foi, vous voyez en fin de compte que ces hommes ont été bénis parce qu'ils ont fait, ils n'ont pas imité quelqu'un. C'est comme nous, si on disait, il y a quelqu'un, je ne sais plus, en Europe, qui est en train de construire une arche. Il est en train d'imiter, je ne sais pas si vous l'avez vu aux infos, voilà, il est en train de construire une arche. Voilà, il construit une arche, bon, il construit une arche. Je ne pense pas que c'est ce que Dieu lui a demandé, mais voilà. Mes frères, qu'est-ce que Dieu vous a demandé? Vous devez pouvoir dire, je sais ce que Dieu me demande. Je sais où est ma place. Dans l'église, il y a des enfants. Il faut que je m'occupe. Vous devez le savoir. Il y a des ados. Il y a l'évangélisation. Oui, je crois que ça peut être ma place. Peut-être pas tous les dimanches, parce que je ne sais pas, mais quand même. Dieu vous le montrera. Je le répète, ce n'est pas à moi de vous le montrer. Mais lorsque quelqu'un vit dans cet état d'esprit de rendre gloire à Dieu, Seigneur, je te rends gloire. Je ne te rends pas gloire, même si vous l'avez fait comme il fallait ce matin. Ça, c'est clair, je le confesse. S'il y a des fois, j'ai dit, c'est dommage, le culte était une réunion de prière plus qu'une réunion d'adoration. Ce matin, ça colle pile poil à ce que nous avons partagé. Mais mes frères et sœurs, si nous vivons ceux qui ont prié à haute voix, ceux qui n'ont pas prié à haute voix, si nous vivons ensemble en disant, Seigneur, je veux te glorifier. Oui, je crois que tu es souverain. Je ne veux pas juste que ce soit un cantique très mélodieux le dimanche matin au culte. Non, je veux que ce soit le chant de ma vie, que tu es glorieux, que tu es grand. Et je vais faire ce que tu me demandes. Mes frères et sœurs, j'ai peur, je vous le dis, que beaucoup parmi nous en soyons arrivés à ce stade de devenir, entre guillemets, religieux. On va à l'église le dimanche et tout le reste de la semaine, la volonté de Dieu, ce n'est pas notre préoccupation. Je suis désolé, la volonté de Dieu, ça doit être notre priorité. Seigneur, quelle est ta volonté? Édifiez-vous vous-même. Je disais cette semaine à quelqu'un, j'étais avec un chrétien, et je disais, c'est vrai, il y a des endroits, les églises ne sont pas édifiées. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut dire, on ne va pas mentir. Mais quand même, il est dit, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Et que même, imaginons, je prends un exemple, même si un pasteur n'enseigne pas bien comment le mari doit se comporter avec sa femme, il y a quand même tout un enseignement qu'un pasteur peut apporter pour le couple. Mais quand même, je veux dire, on a chacun notre Bible, on peut chacun s'édifier. Bon, j'ai une épouse, je sais que je dois l'aimer, j'ai un mari, je sais que je dois me soumettre, etc., etc. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. David a démontré sa foi en faisant ce que Dieu lui demandait, en commençant en obéissant à ses parents. Noé a fait ce que Dieu lui demandait, et le temps nous manque pour parler de tous ces hommes de Dieu qui, Josué, Gédéon, on pourrait les prendre tous les uns après les autres, n'ont fait que ce que Dieu le demandait, et c'est pour ça que Dieu les a bénis. Je termine. Un jour, de toute façon, un jour, tout genou fléchira, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ça nous dépasse. Des milliards de personnes qui fléchiront le genou. Mais certaines le feront à contre-cœur. Et des millions, et certainement plus, le feront parce qu'elles ne pourront pas faire autrement que de le faire. Tout genou fléchira. Hier matin, dans l'Imperium de course, j'écoutais un philosophe qui parlait de Nietzsche. Vous savez Nietzsche, le grand philosophe qui a enseigné et qui a écrit « La mort de Dieu ». Je ne sais pas si vous connaissez. Bon. J'écoutais ça, je dis ce pauvre homme, quand il va pas, il y a longtemps qu'il est mort. Tous ces hommes, en plus ils ont enseigné le rationalisme en France, laissez-moi vous dire qu'ils n'ont pas fait du bien au pays. En fait, ça c'est leur problème. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Toute langue rendra gloire à Dieu. Et heureux, malgré nos défaillances, malgré nos manquements, etc., toutes ces choses qui ne vont pas, heureux les chrétiens qui rendent gloire à Dieu sur la terre. Je ne sais pas si vous le faites. Je ne sais pas si dans votre esprit, dans la journée, vous dites, Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni dans n'importe quoi. On prend un café, merci Seigneur, mais c'est du fond du cœur. C'est une grâce d'avoir un café. Demandez à nos frères et sœurs persécutés s'ils ne seraient pas heureux de boire un bon cappuccino. Demandez-leur. Ce n'est pas une grâce. Et on peut rendre gloire à Dieu en toutes choses. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. La réunion va se terminer, le culte va se terminer. L'adoration, je pense que ça finit pas 11h20, 11h30. L'adoration, on peut la continuer tout à l'heure en faisant du bien à quelqu'un, en rentrant à la maison, en demandant à Dieu pour cet après-midi. J'insiste, sans insister, mais c'est juste pour vous aider à dire à chacun, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous assure, moi, je ne veux pas revenir sur mon accident, mais je sais que Dieu l'a permis pour que je me concentre sur la prédication de la parole de Dieu, sur l'enseignement de la parole de Dieu. Voilà, mais c'était très bien. Voilà, merci Seigneur. Dieu l'a voulu, si Dieu avait voulu me reprendre, il me reprenait, il m'a gardé. Je sais ce que Dieu voulait. C'est que j'arrête justement d'écouter tous ces chrétiens qui me disent, allez voir un tel, allez voir un tel, et je passais mes journées à courir à droite à gauche, et Dieu a montré qu'il fallait que je ne fasse que ce qu'il me demandait, m'appliquer à préparer des prédications. Voilà, c'est une grâce de le faire, mais ça nous amène à chacun à dire, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, tout le monde fléchira. Moi, ça me fait du bien de lire ça. Je ne sais pas vous. Est-ce que ça vous fait du bien de lire « Tout genou fléchira » ? Pensez à n'importe quel être humain qui a existé. « Tout genou fléchira ». Mais il y a ceux qui sont intelligents. Oui, parce que la Bible parle déjà intelligents qui, comme vous et moi, ont cédé à l'appel de la croix et qui le font ici-bas, sur la terre. Ce n'est pas bien de l'avoir fait d'abord ici-bas ? Parce que quand on l'a fait ici-bas, on sera du bon côté dans le ciel. C'est la vérité. Si on reste fidèle, bien sûr, jusqu'à la fin. Heureux l'homme qui glorifie Dieu sur la terre.